ce jour dédié pour la réussite et la réfoua Shema de Ephraim ben Hanina.
Amen.
Alors, on va nous parler ici de l'armée. L'armée, on parlait de ça, c'est-à-dire de l'armée israélienne. Dans quelle mesure faut-il s'engager? Quelle position du monde religieux? Pourquoi les religieux ne vont-ils pas à l'armée? Donc, alors, il est clair qu'il faut une armée, c'est évident. Mais il faut que dans notre esprit, l'armée soit considérée dans ses justes proportions. C'est en aucun cas l'armée qui nous sauve. C'est Hachem qui nous sauve. Alors pourquoi il faut une armée si Hachem nous sauve? Une question peut être posée à propos de toutes les actions que nous faisons. Quelqu'un est malade et Dieu le guérit. Pourtant, il va voir le médecin, il prend des médicaments. Alors on dit, c'est pas le médicament, c'est Dieu qui guérit. Alors pourquoi, dans ce cas-là, que je ne prenne pas un médicament? La parnassa, gagne pain. On me dit, tu vas travailler, tu gagnes de l'argent. C'est pas, ne crois pas que c'est ton travail qui fait l'argent, c'est Dieu qui t'envoie. Alors pourquoi je vais travailler? La réponse à cette question est simple. Nous vivons dans un monde qui s'appelle Olam. Olam signifie monde en hébreu, qui vient de la racine Ne'elam, c'est-à-dire caché. Dieu veut cacher sa présence. Parce que si sa présence était trop dévoilée, il n'y aurait plus de libre arbitre. Donc, on fait un jeu comme s'il n'était pas là. On sait bien qu'il est là et que c'est de lui que tout dépend. Notre sécurité au niveau militaire, notre santé, notre parnassa, tout dépend d'Hachem. Simplement, Hachem ne veut pas que on dise Hachem, fait qu'il y ait maintenant, on gagne la guerre sans armée. Hachem fasse que je guérisse sans prendre de médicaments. Hachem fasse que j'ai du gagne-pain sans devoir aller travailler. Parce que si ça marchait comme ça, alors l'intervention de Dieu serait tellement claire dans le monde qu'il n'y aura plus de libre arbitre. Donc Hachem a voulu qu'on mette en place des canaux naturels. Nous, on met le canal naturel en place et lui amène le flux. Sans canal, il n'y aura pas de flux. Donc on doit avoir une armée, c'est le canal. On doit aller gagner son pain à la sueur de son front. On doit prendre des médicaments et voir les médecins. Mais savoir que ce ne sont que des canaux. C'est juste, je mets en place la comédie. Une sorte de mise en scène. Voilà, comme ça Hachem, il peut faire venir le miracle. C'est lui qui agit, sans que ça ait l'air trop miraculeux.
Ça s'appelle Ishtadlout.
Ishtadlout, exactement. Ishtadlout, ce qui s'appelle la jouer, d'accord, c'est à peu près ça la bonne traduction. Mais il faut bien la jouer normalement. Il est vrai que lorsque des personnes se hissent à un niveau de bitachon, de foi en Dieu et de confiance en Dieu très grand, et il ne faut pas se leurrer, pas croire que nous sommes à ce niveau-là, c'est un résultat d'un travail très très grand de confiance avec Hachem, de relation avec Hachem, alors ils ont besoin, ils peuvent amoindrir. Le Ramban écrit qu'on n'a pas besoin de médicaments. Si Hachem envoie une maladie, c'est presque un crime que de prendre un médicament. Parce qu'Hachem, il veut maintenant... Pourquoi il envoie une maladie? Il a un but. D'accord? Et toi, tu cours circuit, tu prends une pilule, il n'y a plus de maladie. Tu lui fais en quelque sorte, t'as vu, je t'ai bien eu. Alors, Shulchan Aruch dit qu'on a le droit. La Torah donne le droit de prendre des médicaments. On a le droit. C'est un droit. Mais idéalement, Hachem t'envoie une maladie, il veut que tu fasses une introspection, un travail, que tu lèves ta tête vers Hachem, que tu pries, et à un moment, la maladie, elle part. Idem le reste aussi. Les personnes qui avaient une très grande foi en Dieu, un très grand bitachon, ils avaient une ishtadlout de Parnassa, la mise en scène pour la Parnassa, extrêmement minime. Il y a un rav ici, le rav Yosef Chaim Zonenfeld. Il vivait environ 120 ans ici en Israël, il était le sandak de Rabbi Nissan Abba Shaoul. Et il était le premier rabbin du Badatz, l'Aïd Acharit ici en Israël. Et lui, il est venu de Hongrie, il était orphelin. À l'époque, en Hongrie, à l'Yeshiva, il fallait payer tous les jours, il fallait trois pièces. Trois pièces, il devait payer tous les jours pour avoir de quoi manger, dormir, etc. Lui était orphelin, il n'avait pas d'argent. Donc il allait dans la rue, il allait toujours la tête baissée par terre, pour trouver trois pièces. Et tous les jours, il trouvait trois pièces. Donc il a eu une éducation déjà depuis petit de bitachon b'Hachem, de confiance en Hachem. Alors un jour, avec déjà le grand rabbin de la ville, etc., il rentre à la maison. Non, un jour comme ça, un jour, il habitait à la vieille ville à l'époque, c'était avec la vieille ville. Et sa femme tape chez le voisin, toc toc toc, vous n'aurez pas, s'il vous plaît, hein, une demi-miche de pain. On est rien à la maison, hein, mon mari revient, j'ai dit, bon, bah, aucun problème, ouais, je donne un pain, tout ça. Super étonné, ça fait 25 ans qu'ils sont voisins, et jamais madame ou monsieur sont venus demander quelque chose au voisin. Très bizarre. Alors, il a espionné, il s'est mis à la fenêtre, comme ça, il regarde. La ville, d'accord, c'est des petits appartements avec des petits machins, on peut regarder comme ça, de façon interdite, on n'a pas le droit de faire ça. Néanmoins, il a transgressé cet interdit de regarder. Il voit le rave qui rentre à la maison, enlève son manteau, son chapeau, fait une tête d'aïm, s'assied pour manger, il se met à manger. Sa femme rentre, tu sais, Haïm, qu'est-ce que tu es en train de manger? Bah oui, du pain. Ouais, mais tu sais quel pain? Non, quel pain? Tu es en train de manger le pain du voisin. Situation, pas à la banque, il n'y avait pas de banque à l'époque, la situation, elle est zéro. Je lui ai emprunté ce pain. Pas possible. Ah là, je vois que c'est vraiment, il faut que je fasse quelque chose. Là, il faut que je fasse une ishtadlout. Ok, c'est bien que tu m'aies dit. Fait birkat Amazon, il met son manteau, son chapeau, et il sort pour aller faire ishtadlout. Le voisin, curieux de voir quelle va être la ishtadlout du Rav, il met son chapeau, aussi son manteau, et suit le Rav. Il voit que le Rav quitte la maison, il monte comme ça le chemin, il tourne, parle comme ça. Le voisin se regarde par le coin comme ça de la rue et voit que le Rav se baisse par terre, revient à la maison avec une bourse pleine d'argent. C'est l'ishtadlout du Rav Yosef Haïm Zonenfeld. Ah, c'est pas à ton niveau ni mon niveau, c'est un niveau extrêmement grand. Mais ça existe. À notre niveau, on doit faire l'ishtadlout. Maintenant, plus le niveau spirituel du peuple il est haut, moins l'ishtadlout elle est grande, quand on parle de la communauté du peuple d'Israël. Alors, il faut comprendre une chose super, super basique. Est-ce qu'il y a une Bible ici, Shmuel?
Oui.
Voilà, très bien.
Il n'y a pas de récit au début.
Pas besoin, c'est bien, il faut Shmuel. Shmuel 1, chapitre 17. David et Goliath, tout le monde connaît l'histoire, n'est-ce pas?
Juste, pourquoi il faudra avoir un niveau pour pouvoir faire une petite ishtadlout? Si moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de dire, ouais, je ne vais pas travailler, je reste à Yeshiva, je fais une petite ishtadlout. Pourquoi je n'aurai pas de moins de mérite?
Parce que ça signifie que Hachem, maintenant, il a mis une voie naturelle dans le monde. Naturellement, voilà, il faut les canaux pour que Dieu amène le flux, il faut mettre un canal normal. Maintenant, avoir un canal minimal, comme l'histoire que j'ai racontée, c'est miraculeux. C'est déjà du miracle. C'est pas qu'il a fait un couscous à Bracalabatoukouting, il y a une bourse, il a fait quand même, il a fait une petite action. Mais ça tient presque du miracle. Alors, Hachem ne veut pas qu'il y ait des miracles. Hachem veut rester caché. Maintenant, quelqu'un qui se branche avec Hachem sont tellement intimes qu'il vit avec Hachem, il n'y a plus besoin pour lui, c'est ça la normalité. Hachem se comporte avec lui dans cette normalité. Donc, en fonction de ton niveau, si tu es vraiment au niveau, bah c'est normal. Dieu ne veut pas faire un truc anormal. Anormal signifie miracle. Il fait normal. Maintenant, ton normal, ce n'est pas le normal de Rav Yosef Haïm Zonenfeld. Baba Salé, on a l'histoire sans cesse comme ça. Et avec Hachem, comme ça. La première fois qu'il est venu ici en Israël, d'accord, je crois, ou la deuxième fois, il était en bus. Et puis, c'est la Shkia. Il dit à son chaman, je vais dire au conducteur. Il voyageait d'une ville à l'autre. Il va dire au conducteur qu'il arrête, je dois faire mincha. Le conducteur, il envoie balader, ça ne va pas. Bon, tout d'un coup, deux crevaisons de pneus. Là, c'est les descend, il fait sa prière tranquille, il finit, tac, à ce moment-là, les deux, ça prend exactement le temps de rêve, il remonte et le bus part. C'est une proximité, tu comprends, la prière, si on avait une prière, nous, qui est tellement importante à Hachem, alors il fait une crevaison, c'est pas un problème, Hachem, il peut faire ce qu'il veut, mais vu qu'on est un peu tralala, alors Dieu nous laisse dans le cadre naturel. Voilà, d'obscurité.
Est-ce que l'ishtadlout en soi, c'est une mitzvah?
Oui. Oui.
On dit bien que c'est une Torah de vie, donc si on tombe malade, concrètement, prendre un médicament, c'est une mitzvah.
Oui. C'est une mitzvah à un autre niveau. Quelqu'un qui aujourd'hui tombe malade, on va dire, si c'est un truc pas trop grave, alors il peut essayer par... beaucoup même qui conseillent au niveau les naturopathes de laisser le corps... développer des anticorps, etc. Et ça peut être un ou deux jours de souffrance, de maladie, mais au moins, hein, tu n'as pas pris toutes sortes de médicaments qui, en fait, t'affaiblissent dans ton immunité. Une petite maladie, ça va comme ça. Mais quelqu'un qui se ramasse vraiment une maladie grave, d'accord, qui va être vraiment soigné. Il lui dit, non, moi, je vais en Emouna, hein, les rabbanim, normalement, le diront, mon cher ami, tu es en train de pécher parce que tu es en train de te tuer. On n'a pas le droit de faire ça. Alors, elle a une histoire extrêmement importante qui va montrer un peu le principe qui gère le peuple d'Israël. Ça, il faut très bien l'intégrer parce que c'est super basique et important. Alors, Le roi David, très belle histoire. Le roi David, il est donc le fils de Ishaï. Ses grands frères sont partis à la guerre contre les Philistins. Et le roi David est encore trop jeune, il s'occupe, il est paître, donc il paie les troupeaux. Et son père l'appelle, lui dit, va voir ce qui se passe avec tes frères au combat, prends des nouvelles, mais là aussi un petit pique-nique comme ça, quelques petites bonnes choses pour les soldats qui sont au combat. Alors David vient, et tout à coup, il voit Goliath sortir des rangs, il voit donc à tout le côté l'armée israélienne, l'armée philistine, et voit Goliath sortir des rangs des Philistins, commencer à dire, ça fait 40 jours comme ça, il va, il dit, pourquoi est-ce qu'on va faire la guerre toute l'armée contre toute l'armée, sortez une personne de chez vous, on fait un duel, et celui qui gagne, les autres seront vaincus, seront les serviteurs de l'autre peuple. Et il se met, et après il se dit, votre Shaul, votre roi Shaul, qu'est-ce qu'il a fait pour vous, vous êtes dit, regardez comme il est nul, enfin il commence à faire de la propagande. Et il se met à blasphémer, à parler en mal du Dieu d'Israël, Shemishmor. Et David entend ça, mais il dit, c'est quoi cet incirconcis qui se permet comme ça de parler? Ben oui, tu sais pas, ça fait 40 jours comme ça, il sort tout ça, et le roi a dit que celui qui va se battre contre lui donnera sa fille, affranchira sa famille. Mais moi, je vais me battre avec lui. À ce moment, il y a le grand frère qui arrive, il dit, David, allez, tu te prends pour Goldorak, allez, rentre à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu es venu voir du cinéma ici, c'est pas pour toi, allez, rentre à la maison. Bon, de fil en aiguille, le roi David, il dit que non, il veut se battre, les gens entendent cela. Il va voir le roi lui dit « Ok, prends mon armure. » Et David essaie l'armure, puis il dit « Je ne suis pas habitué, moi j'aime être plus relax comme ça. » Bon, il va dans l'île de la rivière, il prend 5 pierres plates. Razal, on dit pourquoi 5? Il y en a qui disent parce qu'il était Tunisien, il était à l'origine des Tunisiens. Mais la vraie explication, c'est que par rapport au Chumash, aux 5 livres de la Torah. Il les met dans sa poche, et se rapproche avec un bâton, son bâton de berger, de Goliath. Goliath, il a une armure qui va depuis le bout de la tête jusqu'en bas, une cotte de mail, d'accord, avec quelqu'un qui va devant lui avec un bouclier, un soldat avec un grand bouclier, un javelot, une épée énorme. Et, je vais dire le texte, c'est mieux de le texte maintenant. Oui, ajouta le Philistin, je défie en ces jours les rangs des Israélites, donnez-moi un homme que nous battions ensemble. Shaul et tout Israël, en entendant ces paroles du Philistin, furent consternés et eurent une grande peur. Vous voulez un peu comme ça, par-ci, par-là. David voit cela. Et David se rapproche de... Il prit son bâton à la main, choisit dans le torrent 5 cailloux lisses qu'il mit dans sa panetière de berger, et mu de sa fronde, s'avança vers le Philistin. Celui-ci s'approcha lentement de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Donc l'homme qui précède avec le bouclier qui précède le Philistin. Le Philistin, considérant David, le regarda avec dédain, parce qu'il était jeune, vermeil et de bonne mine. Et il dit à David, « Suis-je un chien que tu t'avances contre moi avec des bâtons ?»« Moi, je vais me battre avec une armure, tout ça, des armes, avec un chien, avec un bâton. » Il maudissait David en invoquant son Dieu. Le Philistin dit à David, « Viens ici que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. » David répondit au Philistin, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Tu viens avec l'arme physique. Et moi je viens au nom de l'Éternel Tsevakot, du Dieu d'Israël, des légions d'Israël que tu insultes. En ce jour, l'Éternel te mettra en mon pouvoir, je t'abattrai, je te couperai la tête, je livrerai les cadavres de l'armée des Philistins aujourd'hui même aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu pour Israël. Et toute cette multitude, la leçon messieurs, et toute cette multitude saura que l'Éternel n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire, que l'Éternel le maître de la guerre, et il vous livrera en notre pouvoir. » Alors le Philistin se met en mouvement, se met à avancer à sa rencontre, David s'élança, traversa rapidement le champ de bataille dans la direction du Philistin, mit la main dans sa paille, bon, il prend la fronde qui touche l'armure, le casque, c'est du fer, c'est de la pierre. À ce moment, dans le ciel, on a promis au fer que s'il se fendait pour laisser passer la pierre, on ferait dorénavant la Brit Mila avec des couteaux de métal. On peut faire une Brit Mila avec un couteau de verre, avec un couteau de bambou, d'accord, de céramique, c'est bien faire de fer, parce qu'à ce moment, le fer accepte de faire un miracle, c'est ouvert pour laisser passer la pierre de la fronde de David qui rentre dans le front de Goliath, boum, qui tombe par terre, David vient, sort l'épée, lui coupe la tête. Et toute l'armée philistine qui part en courant, les juifs les poursuivent, et ça est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on apprend? La pierre, c'est-à-dire la Torah, parce qu'il a pris cinq pierres par rapport à la Torah, elle vainc l'arme physique. L'arme métaphysique, la puissance métaphysique, est plus forte que l'arme physique. Ça, c'est Am Israël. Toutes ces multitudes sauront que Dieu n'a pas besoin d'épée, de lance pour la victoire. Et nous, notre histoire, elle montre ça de façon extraordinaire. Ça fait 2500 ans qu'on est en exil. Deux exils, on va dire depuis 1900 ans, on est en exil sans armée. Chaque génération, nous disons ça tous les soirs de Pessah, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Chaque génération, ça rate jamais. Chaque génération, tu as quelqu'un qui dit, on va anéantir le peuple juif. Et pas un petit, un énorme. À la fin, il disparaît et nous, on est là. Sans armée depuis jusqu'il y a 67 ans. Sans armée. Comment t'expliques ça? C'est le message qu'on a aux nations. Regardez, il y a un peuple qui montre qu'il y a une force métaphysique plus forte que le physique. Dans les nations, le physique, il gagne. Plus t'es fort, plus tu gagnes. C'est normal. Nous, au monde, ça ne marche pas comme ça. On est l'exemple vivant de ça, qui d'ailleurs qui dérange. Ça te dérange. Ou voir combien que ça dérange. Et même avec l'armée, tout le monde sait qu'on vit des miracles extraordinaires. Extraordinaire, chaque guerre d'Israël est un miracle extraordinaire, chacun le reconnaît, c'est tout à fait anormal. Toute notre histoire, elle est complètement anormale. Donc on n'est pas physique, on est métaphysique. Simplement. Si vraiment tout un Israël se hissait au niveau métaphysique qu'il peut atteindre, c'est marqué En Mazal l'Israël, il n'y a pas de Mazal pour Israël. C'est quoi En Mazal? C'est quoi le Mazal? Le mazal, ça vient du mot nozel en hébreu. Nozel signifie qui coule. Qu'est-ce qui coule? Il y a un flux qui coule d'Hachem dans ce monde. Un flux de santé, un flux de pluie pour l'agriculture, un flux de shidduchim pour qu'on se marie, un flux de vie, un flux de... Tout ce que Hachem amène, ça vient d'en haut. Maintenant, Dieu a mis en place un système métaphysique qui régit le monde. Il y a 70 peuples. Il y en a plus, mais ce sont tous des sous-ensembles, des 70 ensembles, 70 peuples. Et Dieu a donc 70 tuyaux spirituels par lesquels il transmet son flux, qu'on appelle le Mazal. 70 peuples. Parmi ces 70 peuples, il n'y a pas le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'a pas le Mazal. Notre arrière-arrière-grand-père, notre ancêtre, Abraham Avinu, naturellement, il est stérile. Regarde dans le ciel, il voit la constellation astrologique, il n'y a pas d'enfant. On n'existe pas. Le Mazal, ça, aussi ça fonctionne par les étoiles aussi, l'influence des étoiles sur chacun de nous et sur les peuples. Donc au niveau de cette gestion que Dieu a mis en place du monde, il n'y a pas place pour Israël, n'existe pas. On n'a pas droit à une terre. On est né dans le désert. Cette terre n'est pas la nôtre. Enfin, elle est la nôtre parce que Dieu a bien voulu nous la donner, mais on n'a pas de droit par le Mazal. C'est-à-dire que les peuples nous la réclament, disent « c'est pas à vous ». Quand on va dans un pays et on veut profiter un peu aussi de l'économie du pays, on paye nos impôts comme tout le monde, vous mangez le pain des Français, ou le pain des Allemands, ou le pain des Russes, ou le pain des Marocains, peu importe. Donc, dans tout le pays dans lequel on a été, on nous a accusés de manger leur pain. C'est pas complètement faux. C'est-à-dire quoi? C'est pas complètement faux. Bien sûr que c'est faux, mais... On n'a pas de Mazal. On reçoit directement d'Hachem. On est au-dessus du Mazal. Hachem prend Avraham Avinu, le met au-dessus des astres. Il dit, toi, tu es branché avec moi direct. Tu reçois direct de moi. Tu n'as pas besoin de passer par la machine de gestion du monde. Tu es direct avec moi. Attends, ça, c'est à quelles conditions? Qu'on se comporte à un niveau qui légitime qu'on soit en contact intime avec Hachem. Mais si on ne veut pas être, on veut être comme les goïms. Goï signifie corps. On veut être matériel, comme tout le monde, d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? On veut rentrer dans le Mazal. Il n'y a pas de place pour nous. C'est créer l'antisémitisme. On veut prendre ta terre parce que tu n'y as pas droit. On veut prendre ton corps parce que tu n'as pas droit à la vie, parce que tu déranges. On veut prendre ton argent parce que tu manges le pain des Français ou des Allemands. Du point de vue du Mazal, tu n'as pas place à la vie. Au niveau général d'habitude, à part les moments où ça va très très mal dans le peuple d'Israël, il est branché avec Hachem. Au niveau personnel, ça dépend de chacun. On peut se soustraire au mazal, si on est vraiment très proche d'Hachem, ou bien non, on rentre dans le mazal. Mais au niveau du peuple d'Israël, normalement, on est hors du mazal. Maintenant, dans quelle mesure ? Dans le comportement, il y a aussi hors du mazal, il y a combien ? Alors, peuple d'Israël, au niveau général, est un peuple éternel. On est branché avec Hachem, on ne pourra jamais disparaître, on n'est pas dans le mazal. Quoi qu'il y ait, même une Shoah, Chas et Shalom, le peuple d'Israël est éternel, il continuera. Maintenant, dans quelles conditions ? Si on est vraiment très très proche d'Hachem, on n'a pas besoin d'avoir recours au système physique. Du tout, du tout, du tout. Le roi David, il lance une pierre, pac, on a gagné la guerre. Si tout un Israël était à la yeshiva, je me dis, mais alors comment on va faire ? C'est très hypothétique, hein, mais admettons, du jour au lendemain, tac, il n'y a plus aucun ennemi, c'est fini. On fera, waouh ! Et ils passent tous, ils courent tous apeurés, terribles. Est-ce que ce qu'on attend pour Gog ou Magog ? C'est quoi ? Est-ce qu'il se passe pour Gog ou Magog ? Je vous mets un peu au parfum parce que je ne veux pas en parler. C'est marqué « Kimet tsetra metz misraim eren uniflaot ». Comment on est sorti d'Égypte ? Comme ça, montre-nous des miracles. De là, déduit Rasa, ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte sera la même chose aussi à la fin des temps. La Géoula que nous attendons, la rédemption, sera du même type que ce qui s'est passé en sortie d'Égypte. Il y aura les mêmes phénomènes. Le peuple d'Israël sort, dirigé par Moshe Rabbeinu. Ok ? On va dans le désert. Tout d'un coup, Dieu dit à Moshe, reviens. On ne comprend pas. Dieu a dit, on revient. Bon, on revient. Et Pharaon a envoyé des espions. Et il voit, ils sont en train de tourner en rond. Ils reviennent. Ils sont perdus dans le désert. Ça va pas, ils n'ont pas de boussole, ils sont perdus. Ok, ça va être leur fin. C'est un hameçon. Un hameçon que Dieu a fait pour sortir Pharaon et pour partir à la poursuite du peuple juif. Et Dieu amène le peuple juif en face de la mer Rouge, la mer de Jean, pour être plus précis. D'accord ? Ils arrivent là-bas le soir. Des vagues, d'après Chazal, 5 à 10 mètres, énormes, on ne peut pas passer. Ça fait une peur terrible la nuit, la mer, c'est terrible. Tout qu'ils voient, derrière eux, l'armée égyptienne qui arrive. L'univers concentrationnaire égyptien. Le texte dit « Vaïr'u me'od », ils ont été terrorisés. « Vaïtsakou et Hachem », ils ont crié à Dieu. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Hachem veut... On ne compte pas ni sur Moshe, ni sur l'armée, ni sur personne, ni sur papa, ni sur maman, sur lui. Alors il met la pression. On aurait pu aller dans le désert, tout ça, mais il voulait d'abord engloutir les Égyptiens, mais qu'on apprenne maintenant. Pour faire ce miracle qu'il va faire, l'ouverture de la mer Rouge, il fallait hurler Hachem, terroriser Vaïrou Mehot. Ils ont eu peur, beaucoup, terroriser les enfants, les femmes, et tout le monde se mêlait. Ils commencent à crier sur Moshe, quoi, il manquait des tombes en Égypte qu'on vienne ici mourir bêtement à la plage. Mer Rouge Beach, c'est idiot. Et il crie à Hachem. Chazal dit, qu'est-ce qu'il dit à Hachem à ce moment-là ? Un verset de Shira Shirim. Hachmini colère, fais-moi écouter ta voix, qui colère à rêve, ta voix est agréable. Hein? Ding, 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 on joue comme ça. C'est du sadisme, Hachem il est content, on hurle comme des fous, mais Hachem il veut ça, il ne veut pas qu'on souffre, mais il veut qu'on oublie maintenant ce monde matériel et qu'on se branche avec lui. Et Gog Magog c'est ça. Dieu va mettre des hameçons dans la mâchoire de Gog, il va venir attaquer Israël et on sera bloqué. Je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'Hachem veut qu'on prie, qu'on hurle à Hachem. On va prier et on va hurler, et là il y aura un dévoilement, et le grand patatras de Gog ou Magog.
Je dirais que c'est la seule façon de crier vers Hachem, c'est de nous faire souffrir avant.
Si on crie tout seul, ça marche très bien. Mais l'expérience a montré qu'on crie mieux quand on a mal. C'est dommage. C'est très dommage, c'est très très dommage. C'est marqué Ishmael, pourquoi le Midrash écrit il y a 2000 ans, plus vieux du Midrash, c'est pourquoi il était appelé Ishmael. Ishmael, c'est l'essence même, le nom évoque l'essence du peuple, sa finalité. Pourquoi on a maintenant, Dieu a créé maintenant Ishmael, à quoi ça sert ? Chacun une finalité, d'accord ? Pourquoi Ishmael est là ? La vraie finalité, Ishmael, Dieu écoutera. Parce qu'Ishmael va nous faire du mal. À un point tel, comme aujourd'hui, toute la vague d'attentats maintenant, à quoi elle sert ? On vit des miracles extraordinaires. On a fait le calcul l'autre jour, on aurait dû avoir 3000 morts normalement. D'accord ? On en a quelqu'un, j'ai dit à quelqu'un hier 30, il a sauté jamais la vie, il y en a 13 ou 14. On aurait dû avoir 3000 morts, on en a dû avoir. Pourquoi Hachem fait ça? T'as la meilleure armée du monde. La meilleure armée, les avions super machin, les tanks avec les... Et il y a des tanks aujourd'hui en Israël. Il y a un système extraordinaire, c'est fabuleux. On t'envoie un obus sur un tank. Il arrive à une vitesse...
Un missile
ou un obus. Un obus, c'est beaucoup plus rapide qu'un missile, d'accord, hein. Bien sûr, c'est un obus. Comment ça marche? Ça marche très bien. Je parle avec un type qui est un des... Voilà, je ne vais pas parler plus. Un type qui est dans le truc, d'accord. Il m'a dit comment ça fonctionne, parce que j'étais ancien tankiste. Alors, j'étais passionné, d'accord. Il m'a dit, tu as un système de radar, il, avec l'ordinateur, il définit quelle sorte d'objet vient. C'est un missile, c'est un obus, quel type d'obus. Tac, 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 tac. Et tout à coup, il envoie une sorte de missile, d'accord, qui va créer une sorte de... On ne peut pas toucher le but lui-même, mais un endroit comme ça, de cette grandeur-là, une sorte de déflagration qui va faire dévier l'obus. C'est extraordinaire. Donc, tu as les meilleurs tanks. Tu as les meilleurs services d'enseignement. Tu as les meilleurs parachutistes. Tu as les meilleurs sous-marins. Tu as les meilleurs commandos. Tu as les meilleurs, tu as les meilleurs, tu as les meilleurs, tu as les meilleurs. Moi, je... Tout le monde... On est tous contents, ils n'ont plus pas, c'est des fantômes, les FCL. Baruch HaShem, après 2000 ans qu'on était, hein, on a notre armée, notre honneur, notre gloire. Ok, et moi HaShem? Oui, bon, alors t'en as qui, ça n'existe pas du tout, ouais, quoi, alors. Bibi, c'est bien, la dernière guerre, il a dit, grâce à Tzahal et grâce à HaShem, on a réussi. Bon, il a rappelé au moins en deuxième place. Pas mal, c'est déjà un progrès, d'accord? Mais c'est pas suffisant. Pourquoi je racontais tout ça? Ah oui, alors qu'est-ce qu'il fait HM? Ah, tu veux jouer au plus malin? On va voir c'est qui est le plus malin. Il envoie des petits jeunes gens de 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans avec des couteaux de cuisine. On a peur de sortir dans la rue. C'est quoi la leçon? Il faut une armée. C'est évident. Si tout a mis sur la tête à l'Eshiva, tout le monde était religieux, tout le monde était pratiquant, il n'y aura pas besoin d'armée, il n'y aura plus aucun ennemi, c'est pas shoot. On dit ça tous les jours dans la... Amène-moi un sido. Comment il fonctionne ce sidour? Sidour normal, merci. En hébreu. Tous les matins, pas tous les matins, on dit ça que le mercredi matin, demain matin, messieurs. Vous penserez à moi quand vous lirez cela. Jeudi matin, excusez-moi. Hachem nous dit, Louami Shomayali, si mon peuple m'écoutait, Israël, Israël allait dans mes voies, pratiquer ma Torah. Kim'at, en une fraction de seconde, Oyve Machnia, tous leurs ennemis, je les bats. Valserem, Ashiviadi, et sur ceux qui les font, leurs persécuteurs, c'est moi, je mettrai ma main. Si seulement Israël m'écoutait, allait dans mes voies, en une seconde, plaf, plus rien. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est uniquement comme ça qu'on fonctionne. Attends, vu que le peuple d'Israël ne fonctionne pas ainsi, et veut en partie, de façon sciente, de façon inconsciente, peu importe, la situation est que pas tout le monde comprend cela et pas tout le monde agit, et qu'on a recours à la matière, au physique, et on oublie Hachem, alors Hachem aide beaucoup, mais moins. Alors on a besoin d'une armée. Alors il faut cette armée. Mais dire maintenant qu'on va prendre ceux qui sont les vrais commando, la vraie armée qui fait qu'on... Le vrai critère de la victoire, c'est la spiritualité, c'est l'étude de Torah. C'est ça, la plus grande mitzvah qui est dans toute la Torah. Chaque mot Torah qu'on étudie vaut 613 mitzvot. Donc en une journée, on peut faire des millions de milliards de mitzvot. Et c'est grâce à ça qu'on est israélien, hein, grâce à la Torah. Aïe, 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 aïe. Allez-moi le chumash, pas besoin du chumash. Pas besoin du chumash. Partage à vous, messieurs. Toldot. Esav vend son droit d'aînesse à Yaakov. Quelques années plus tard, Yitzhak le père veut bénir son fils Esav. Il y va à la chasse. Il m'a amené un bon gibier, comme ça je te bénis avec envie, je serai en bonne humeur pour te bénir comme il faut bien. Esav part à la chasse, qui le remplace?
Perd sa place.
Exactement. Yaakov, d'où le dicton, qui est à la chasse, perd sa place. Exactement. Yaakov rentre à sa place. Il sera dit, t'as fait rapidement mon fils. Oui, bon, Hachem, ton Dieu m'a aidé. Ton Dieu. Jamais Esav prononce le nom de Dieu. Viens, viens, dis-moi, c'est bien toi, Esav, mon fils? Oui. Il ment. Pas tout à fait. Il dit Annie, ton frère, je suis, je. Esav Bechorecha, Esav est ton fils aîné. Pour avoir droit au Bachot qui était les siennes et pour empêcher Esav de lui voler ce qui lui revenait, il pouvait. Un cambrioleur vient chez moi à la maison, me dit le numéro du coffre, je lui dis j'ai pas de coffre, je peux mentir, d'accord? On peut mentir pour ne pas se voler. Et Sarah dit, viens que je te tâtonne, mon fils Esav est super chevelu. Sa mère, Rivka, a donné à son fils Yaakov des pelisses de chèvre. Et Esav touche, super chevelu. Il dit, bizarre. À Kol Kol Yaakov, la voix celle de Jacob, vers Adam et d'Esav, les mains sont celles d'Esav. C'est bien toi mon fils. Yaakov, il dit oui, et il le bénit. À Kol Kol Yaakov, la voix est celle de Jacob, les mains sont celles d'Esav. Chazal l'ont dit. Tant que la voix de Jacob retentit dans les échivotes, la voix de la Torah, les mains ne sont pas celles d'Esav. La technique de combat de l'Occident, de Esav, c'est les mains. La guerre physique, les porte-avions, les avions, etc., les bombes. Notre technique à nous, c'est notre voix. Torah, prière. C'est comme ça qu'on fonctionne. Chazal on dit, tant que la voix de Jacob se fait entendre dans les échivotes, les mains ne sont pas celles d'Esav. Et ça rentre après. Demande une bracha. J'ai tout donné à son fils, à ton frère, Yaakov. Il se met à pleurer. Israël le bénit. Il lui dit, « Vaya kitarid ou parata ulcha mal savet. Vaya kitarid ou parata ulcha asher al savarecha. Ou lo asher al savarecha. » Quand tu pourras te plaindre que Jacob ne joue pas son rôle de Jacob, de Torah, de prière, tu pourras te défaire du joug qu'il a mis sur ta nuque. Moi, le père Yitzhak, j'ai dit à Yaakov, tu mets un joug sur Esav. Il ne peut rien faire. Par ta prière, par ton étude de Torah, Esav est ligoté, il ne peut rien faire. Il a un joug, clac, bloqué à terre, rien faire. Mais si maintenant Esav se plaint, hey, pourquoi lui c'est Yaakov, il ne fait pas son jeu, il ne joue pas son rôle de frère aîné, de Torah et de prière, t'enlèves le joug. Et tu te lèves avec ton poignard, parce que Yitzhak le béni, tu vivras sur ton épée, avec ton épée, tu vas, tu tues. Terrible. Alors l'arme de Esav, c'est l'épée. Et nous, par l'entourage, on met un joug dessus, il ne peut rien faire. Maintenant, cette rachat qu'on fait Chazal, tant que la voix est celle de Jacob, les mains ne sont pas celles d'Esav, elle est fausse par rapport au verset. Que dit le verset? Il dit, la voix est celle de Jacob, les mains sont celles d'Esav. Toi, tu dis, tant que la voix est celle de Jacob, ça marche, les mains ne sont pas celles d'Esav. C'est le contraire. Le verset dit « les mains chez Jacob, la voix chez Jacob, les mains chez Esav ». Tu dis la voix chez Jacob, il n'y a plus les mains chez Esav. Quoi, il n'y a plus? Le verset dit « les mains sont oui chez Esav ». Comment tu peux changer le sens du verset? Tu comprends ce que je dis? Très bien. Le mot « hakol » s'écrit en hébreu. « Hey, kuf, vav, lamed ».« Kol »,« kuf, vav, lamed ». Dans la Torah, il est marqué « Hey, kuf, lamed », sans le « vav ». On peut lire Hakel Kol Yaakov. C'est quoi Hakel? Allège. Allège la voix de Jacob. Un dit je suis fatigué aujourd'hui, je veux dans mon lit. Un. Tout de suite, les mains sont celles d'Esav. Messieurs, c'est proportionnel. Plus d'études de Torah, moins d'attentats. Moins d'études de Torah, plus d'attentats. Lorsque la vague d'attentats, c'était Ben Azmanim. C'est il y a une semaine de vacances terrible. Terrible. On a besoin, mais c'est terrible. Le prix qu'on paye, il est terrible. Entre la fin de Sukkot et le début de l'étude de Torah, il y a une semaine de vacances. La vague d'entraide est terrible. Deux jours avant la fin, Rav Shteman a dit, dans deux jours, les yeshivot commencent, ça va se calmer. Les yeshivot ont commencé, ça en une journée, ça a baissé de 80% le taux d'attentat. L'étude de Torah. C'est énorme. C'est énorme. Et ça, c'est 1% combien? 0,1% du peuple qui touche pas, 0,5% du peuple qui étudie, moins. Déjà, alors, imagine maintenant qu'il y ait le double, triple, quadruple. On l'a facilement. Donc c'est une autre façon de fonctionner. Si tout Am Israël était dans la Torah, il n'y aurait pas besoin d'armée. Vu que ce n'est pas le cas, alors il faut aussi une armée. Mais comprendre que c'est le canal, l'essentiel. Le flux, le critère de la victoire dépend de la spiritualité. C'est comme ça qu'on a fonctionné, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ceux qui sont le contraire n'ont pas Dieu pour voir. Ils ont dit, oh, mais regarde l'armée, machin, t'as 67 ans d'expérience, mon cher ami. Moi, j'en ai 3500 ans. Qui a raison? qui a raison. J'ai fait mes preuves. Et toi-même, même les grands chefs de l'armée, il y avait l'autre, le Ramatkal, le chef de l'armée israélienne, avant celui qui avait, c'était Gabi Ashkenazi, eh bien, il allait de temps en temps voir le Rav Chaim Kanievski à Bnei Brak. À minuit, tout à coup, on voit une jeep arriver, il y avait sur les toits des gardes avec des machins, tout ça. On rentrait qu'à 5 personnes, le chef de l'armée, le chef de l'armée de l'air, le chef de la marine, le chef des renseignements, ouvrait les cartes, Rav Chaim Kanievski, et il leur dit tac, 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 tac. Quand ils sont partis pour NTB, on va dire, il y a une chouva entière, d'accord, est-ce qu'on a le droit d'aller maintenant mettre en danger des soldats pour sauver d'autres personnes? Il y a toute une chouva entière. C'est Rabin qui lui a dit, voilà, maintenant, il a réduit tous les rabbins, priez, priez, et tout le monde priez. Qu'est-ce que c'est comme ça que ça. Même Rabin, on va dire, il connaît rien en Torah, mais ils comprennent. Ceux qui sont à la tête comprennent, ils voient très bien, c'est pas normal, même les guerres qu'on fait, on réussit de façon complètement miraculeuse. Donc ils ont très bien compris. Alors nous qui sommes censés bien comprendre cela, on a une responsabilité beaucoup plus grande d'augmenter nos spiritualités pour tout Am Israël. Amen, Kenératson. Baruch Adonai, amen, amen, amen.